Bonjour, Christine Courtemanche de Plazé. Bon, mais je voulais vous dire à toute l'équipe, c'est OK. Si je proposais le jeudi soir, j'aime bien cette date du jeudi soir pour le café, au café de Plazé, au petit Plazé. Et si je proposais le premier jeudi de chaque mois, c'est pour être sûr de tenir dans la durée d'abord, mais après tout, c'est le peuple qui sera là, qui décidera de la fréquence des rencontres, et puis les événements aussi, bien sûr. Hein. C'est le soviet qui décide, moi je suis, enfin j'essaierai. Hein. Bon, alors sinon, premier café, si j'y suis, à Plazé, jeudi, le premier jeudi du mois d'octobre, à 18h. Salut!
Et ben voilà, c'est le premier café repère des amis de là-bas si j'y suis. C'est donc le café de Plazé. Je sais pas du tout où c'est à côté de Bressuire, c'est à 6 km de Bressuire, nous a dit Christine Courtemanche. Et ben voilà, c'est le premier jeudi d'octobre à 18h que sera créé après ça à côté de Bressuire, le premier café repère des amis de là-bas, si j'y suis. Je vous rappelle le principe, c'est notre idée pour la rentrée. On va voir si ça marche, si ça vous tente, si ça a l'air, parce qu'il y a on a des propositions, des tas d'auditeurs qui disent, ah ben, on est en train de chercher, on va vous dire ça, c'est très bien, ça nous plaît, ça nous amuse, etc. Quelle est l'idée? Simplement, vous avez des voisins qui écoutent là-bas, si j'y suis aussi, ou dans votre coin, dans votre quartier, dans votre campagne, là-bas. Eh ben, pourquoi pas se rencontrer, comme ça, de façon tout à fait informelle, évidemment, dans un lieu que vous décidez, dans tel bistrot, dans tel endroit, et tel jour, telle heure, et chaque semaine, eh ben, vous retrouvez entre vous pour parler de la pluie, du beau temps, et plus si affinité. Voilà, c'est notre idée pour cette rentrée. Donc ça, c'est le premier. Et puis, il y en a d'autres qui sont en préparation, et on vous le dira au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, retour sur Saint-Menet et sur Nestlé, sur ces plans, ce licenciement de 427 salariés. Vous savez, vous connaissez cette histoire, vous l'avez suivie un peu partout, et puis notamment dans la base, j'y suis, et ça nous intéresse de suivre, non pas d'être comme ça toujours tributaire de l'événement, et puis ensuite on n'en entend plus parler. Là, on a essayé, tout au cours de l'année dernière, avec Olivia et François Ruffin, de suivre l'évolution de cette lutte des salariés de Nestlé à Marseille, à Saint-Menet, contre ce plan de licenciement. Il y a un rebondissement tout récent, et donc voilà pourquoi nous sommes retournés à Marseille. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base si j'y suis, donc vous connaissez bien sûr le numéro 01 56 40 37 37.
Bonjour, mes coordonnées, je suis le docteur Annie Libert au point santé. J'ai entendu hier le coup de gueule de Christiane de Grenoble à propos d'un refus de soins d'un ORL pour une personne ayant la CMU. J'aimerais dire à Christiane et aux auditeurs intéressés plusieurs choses. D'abord, que la loi CMU n'autorise pas ces refus qui sont illégaux. Deuxièmement, que la CEPAM, la Sécu de Grenoble, dit qu'elle veut bien croire qu'il y ait des refus, mais que s'ils ne sont pas signalés, ils ne peuvent rien faire. Troisième point, pour signaler ces refus et pour pouvoir faire quelque chose, nous assurons une permanence téléphonique au 04 76 89 31 42 pour les Isérois qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins, pour les aider à exercer réellement leurs droits dans ce domaine.
Oui, bonjour, je m'appelle Delphine, j'habite Montauban, je téléphone parce que cet été, nous avons perdu quelqu'un d'important, il s'appelait François. C'était un fidèle auditeur de France Inter. Il n'arrêtait pas de parler de votre émission, c'était des débats sans fin sur votre émission. Aujourd'hui, j'ai enfin allumé la radio, branchant France Inter, en écoutant là-bas si j'y suis. Et ça avait beaucoup d'émotion que je voulais vous faire part de son décès, puisque je pense que nous avons perdu un ami. Mais France Inter, surtout là-bas, et si j'y suis, a perdu son plus fidèle auditeur. Voilà. Je sais qu'il avait beaucoup d'amis, une famille importante, et que beaucoup de gens entendront ce message s'il passe à la radio.
Bonjour Daniel. Votre absence pendant l'été était un manque pour nous qui passe que 3 mois chaque été en France. Et nous sommes très contents que c'est maintenant le mois de septembre et tu es revenu sur les ondes. Mon message. France a offert l'aide aux victimes de cyclones à Nouvelle-Orléans qui étaient refusées au début par le président Bush et finalement acceptées par le même Bush qui a envoyé les soldats de la réserve pour établir ordre sur les gens sans eau potable, avec rien à manger, sans aide médicale, à ces gens qui, dans un état d'espération, commençaient à saccager la ville. Je suis tout à fait d'accord aussi avec l'analyse des journalistes de Le Monde Diplomatique qui vous avez donné aujourd'hui. Merci encore pour votre présence sur France Inter. Au revoir.
Salut Daniel, eh ben écoute, c'est Sylvie Duvar. Là, je suis dans le bus qui va à Rodez pour soutenir donc un petit peu tous les copains qui sont au tribunal ce matin et toute la journée. Donc, écoute, je te ferai encore un petit portable reportage. Là, on est une petite quarantaine de personnes et on arrive 11h21, voilà. Allô Daniel, écoute, là on est arrivé donc sur une petite place.
Bon, on sera plusieurs au tribunal pour accompagner les prévenus. Départ immédiat.
Voilà, donc c'est la première série de tribunal qui vient d'être finie et on va partir au tribunal. Alors je te raconterai un petit peu la petite place plus tard, ok? Allez, à plus tard.
Allô Daniel, écoute, là je vous emmène en manif, hein. Alors là il y a des tracteurs et dessus il y a il y a des gens qui tapent sur des bidons. Allez, je vous emmène. Ça va? Voilà, on a envahi le centre de Rodez, on a un tracteur. On fait les tambours du Bronx. J'espère que le tribunal nous entend parce qu'ils vont être en train de juger des innocents. Alors on a des pancartes. La RAGD, R-A-G-T, nous empoisonne. Allez, bon courage à tous. Je cours dans la rue pour continuer la lutte. Salut.
Voilà un reportable, des échos sonores de ce qui passe actuellement à Rodez, ce qui s'est passé aujourd'hui à Rodez, c'est-à-dire l'ouverture du procès contre des membres, des sympathisants de la Confédération paysanne, suite à... Et de quoi ils sont-ils accusés, ces gens-là? Eh bien, d'avoir fait du vol pour vol en réunion. Vol en réunion. Ils sont 16 et une peine de 4 mois de prison ferme a été requise devant ce tribunal correctionnel de Rodez contre Jean-Émile Sanchez, qui est l'ancien porte-parole de la Confédération paysanne. Et les 15 autres militants sont poursuivis pour vol en réunion contre un semencier et un laitier. Vous avez reconnu là les militants, les faucheurs anti-OGM. On en saura un peu plus ce soir dans les journaux, je pense, et en tout cas demain dans là-bas si j'y suis. On part pour Saint-Menay, Nestlé, Marseille. Auparavant, ce très beau message sur le répondeur de là-bas si j'y suis.
Depuis la mort de mon père, c'est moi qui remonte la pendule. C'est une de ces grandes pendules, genre comtoise, je pense. Sauf qu'elle n'est pas galbée comme la comtoise, elle est rustique, toute droite. Et mon père l'a remontée le dimanche soir, donc j'ai suivi. Mais il m'arrive d'oublier. Et puis elle s'arrête. Elle tient en fait un peu plus de 7 jours, elle tient même un petit peu plus de 8 jours, quoi. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de la remonter. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai trouvé ça rigolo. Elle est arrêtée à 5h06. Elle a dû s'arrêter ce matin. Alors dans ces cas-là, quand elle est arrêtée, pour pas faire tourner les aiguilles comme ça et faire sonner toutes les demi-heures et toutes les heures, je remonte les poids et l'heure venue, je relance le balancier. Eh bien, ça sera à 17h06, à l'heure de là-bas si j'y suis. C'est amusant, non? Voilà. Donc, je mettrai la radio à côté. À tout à l'heure.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Olivia Gesbert et François Ruffin. Saint-Menay.
flight number 2, arriving from New York.
Alors ça, c'est du bruit. C'est un bruit assez désagréable, il faut bien dire. Et puis c'est un bruit qui vous dit rien. Qui vous dit rien de particulier, on dirait quoi, une soufflerie. Ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être industriel, ça peut être naturel. Enfin naturel, pas tellement quand même. Ça pourrait. Voilà. En tout cas, ce bruit, eh ben pour les salariés de l'usine Nestlé de Saint-Menay, près de Marseille, c'est un espoir. C'est un petit espoir, vont-ils nous dire. En tout cas, c'est un épisode d'une lutte qu'ils mènent, que ces salariés mènent contre ce qu'on leur propose, ce que la direction de Nestlé leur propose, c'est-à-dire un plan de licenciement. Ils se battent comme des diables, comme des beaux diables, depuis maintenant 16 mois. Et voilà que, il y a quelques jours, il y a eu un revirement. Est-ce que c'est un revirement réel ou un revirement tactique? En tout cas, le tribunal, le juge des référés, a astreint la direction de l'usine Nestlé Saint-Menay de près de Marseille à rouvrir, à relancer la fabrication du chocolat et du café dans cette entreprise. Alors, est-ce que ça annonce une reprise? Est-ce que c'est un épisode, encore une fois, tactique de la part de la direction de cette énorme multinationale? Qui l'emportera, de David ou de Goliath, dans ce combat? On a voulu en savoir plus et comprendre ce qu'est ce bruit.
Et vous, ce bruit-là, c'est un bruit que vous attendiez, que vous espériez?
Alors, le bruit, oui, bien sûr, pour le prestige du redémarrage de l'usine, c'est clair que c'est le bruit qu'on attendait. Mais c'est vrai que quand on y travaille, il faut quand même porter des casques anti-bruit, parce que c'est vraiment trop bruyant. Hein. On y a passé tout le mois de juillet sur le poste de travail, à pas entendre cet outil de travail qui tourne, je vous garantis que là, ça fait mal. Hein. On n'osait même pas sortir des salles de contrôle de peur de se retrouver face à l'outil de travail arrêté, c'est abominable. Là, maintenant qu'on entend tourner, même que ça fait du bruit énormément, c'est vrai que c'est important pour nous et c'est vrai que ça nous redonne du moral, quoi. Maintenant, le plus longtemps possible, entendre ce bruit, que les gens voient de la fumée sortir de l'usine et sentir la bonne odeur sur l'autoroute, de café ou de chocolat, pour tout le monde, c'est un bien. On ne peut pas mettre 427 personnes à la rue comme ça et je ne vois pas pour quelle raison ça ne continuerait pas.
Alors, un épisode, une victoire, un espoir, un chant du cygne, mais ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien, les salariés de cette usine Saint-Menay à Nestlé, à Marseille. Ils n'en savent rien, ils savent en tout cas qu'ils se battent depuis maintenant 16 mois contre ce plan de licenciement qu'on leur propose. Parce que Nestlé, ils vont nous l'expliquer dans les détails, se refuse à tout repreneur. C'est-à-dire que la direction de Nestlé veut fermer le site et licencier les 427 salariés de l'entreprise, mais refuse toute autre alternative. Refuse notamment le plan alternatif que les salariés ont proposé et qui, selon eux, pourrait convenir à un repreneur. Et ça, Nestlé n'en veut pas. C'est-à-dire que Nestlé veut une opération matière brûlée. On ferme et personne ne reprendra cette l'entreprise. On pourra en faire un site à destination d'artisanat, de petites entreprises qui pourraient s'installer, mais rien d'autre. C'est donc ce combat. Évidemment que c'est un combat exemplaire, c'est un combat comme on en a décrit des quantités depuis des années dans cette émission et ailleurs, partout bien sûr, c'est la hantise, c'est le spectre qui partout rôde et hante notre pays, notre Europe, et qui hante évidemment qui est le noyau de l'inquiétude actuelle, de cette insécurité profonde qui hante ce pays, qui hante notre société et qui mine nos vies à tous. C'est dire l'importance que nous attachons à ces rencontres et aux propos que tiendront aussi bien les salariés que la direction de Nestlé à Saint-Benet.
Voilà que la France d'en bas, elle se met à marcher. Et même si ça te gêne, elle se met aussi à crier. Et de ta France d'en haut, vois-tu les drapeaux se lever. Sur le bleu et le blanc, le rouge paraît bien foncé. Amis, entends-tu tes frères qui se sentent malmenés? L'économie va bientôt les manger. Tu licencies, tu vois les actions remonter. Tu réussis, mais tu seras tout seul à pleurer. L'économie, ça coûte cher. Ton business, tu peux pas le faire sur le dos de tes frères. De l'humain, dans tes affaires. Et tous ensemble responsables de la misère. Tu regardes les infirmières et tu dis ça coûte cher. Tu regardes les ouvrières et tu dis ça coûte cher. Tu regardes les fonctionnaires et tu dis ça coûte cher. Instituteur, artiste, ça c'est vraiment trop cher. L'économie, c'est toujours sur le dos des petits. La misère s'y installe un peu comme l'oiseau fait son nid. Tout l'art de tondre un œuf, c'est sûrement ça qu'on t'a appris. Mais ça rapporte jamais rien de miser sur le mépris. L'économie, ça coûte cher. Ton business, tu peux pas le faire sur le dos de tes frères. De l'humain, dans tes affaires. Et tous ensemble responsables de la misère.
On ne peut pas fermer une usine qui a 50 ans d'existence et qui est rentable comme on ferme un livre, c'est pas possible. Il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités. Je veux dire, ce qui compte avant tout, ce n'est pas les dividendes et l'augmentation du profit de Nestlé qui en a suffisamment comme ça. Ce qui compte avant nous, c'est que les enfants de José aient une vie paisible, que les enfants de Roger aient une vie tranquille, que les collègues de travail puissent continuer tout simplement de vivre. On veut vivre. Si l'être humain, si les valeurs humaines ne valent plus rien par rapport aux valeurs boursières. Je veux dire, l'affaire de l'usine de Nestlé Marseille, comme de nos camarades de Lustucru, ou comme nos camarades de Perrier à Vergès, je veux dire, c'est quand même un enjeu de société considérable. Nestlé s'imaginait qu'on allait tout casser et qu'on allait occuper l'usine, arrêter les productions. Sachant très bien que c'est une stratégie qui nous aurait très vite épuisé et mis les salariés en difficulté, on a décidé de mener une action beaucoup plus, je dirais, intelligente, qui consiste d'abord à faire continuer l'usine dans le domaine des productions, pour ne pas nous mettre en situation, pas nous mettre le garrot, quoi, hein. On veut laisser cette responsabilité à Nestlé. C'est Nestlé qui veut fermer l'usine, c'est pas les salariés de l'usine qui veulent la fermer. La stratégie de la terre brûlée, de la casse, les méthodes de voyous, ce sont les méthodes de Nestlé, ce sont pas les méthodes des salariés. On s'est pas engagé dans une stratégie suicidaire. Mais ça veut pas dire qu'on va laisser Nestlé tranquille, on les laissera pas tranquilles. Nestlé veut faire vite, donc nous on n'a pas intérêt à que ça aille vite. On est dans une situation de condamné à mort qui ne sait pas, veut dire, on est condamné, mais on ne sait pas quelle heure, quelle sera l'heure. Nous, on ne veut pas être condamné à mort, et on est en sursis. On fera tout pour pas être condamné par Nestlé.
Et on s'en va. Les gens au chômage, c'est pas bon.
Des tables rondes, arrêtez les promesses, des tables
rondes.
Des tables
rondes,
des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes, des tables rondes.
On est à la foire de Marseille pour pouvoir rencontrer Monsieur Godet, avoir un passe-en-passe et lui dire qu'il organise une table ronde. Parce qu'on s'est déjà rencontré avec M. Godin, c'est que des promesses.
M. Godin, c'est le maire de Marseille.
Le maire de Marseille, M. Godin, le maire de Marseille, on a rencontré le préfet de région. Toujours pareil, c'est que des blablabla. Oui, on va avoir une table ronde, mais là, ça fait pratiquement 5 mois que nous annonçons la fermeture, et il n'y a toujours rien eu. Tant que les politiques n'arrêteront pas ça, on ne pourra rien faire, parce que c'est la faute des politiques. Pour moi, en fin de compte, maintenant, c'est plus la faute aux patrons. On sait comment ils sont, les patrons. Il n'y a que le bénéfice, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais tant que l'État ne mettra pas le haut là, ils feront ce qu'ils voudront. Et nous, malheureusement, ça sera encore nous, les petits gens, les ouvriers, qui morfleront.
Oh, que c'est pas beau.
Voilà, 16 mois qu'ils se battent, c'est... Ce qu'on vient d'entendre là, c'était le 16 octobre 2004, dans une émission qu'on vous avait présentée le 16 octobre 2004. Et voilà, vous avez compris, tout le monde a compris ce qui se dit là, les enjeux, le conflit, la situation. Pourquoi est-ce que tout le monde a compris? Parce que tout le monde a, dans son entourage ou lui-même, des gens qui sont menacés, qui sont concernés ou qui sont au tapis. Dans notre belle hexagone, c'est une situation tout à fait courante, en dépit du patriotisme économique dont a parlé un certain Premier ministre récemment. Est-ce que, évidemment, n'est pas tombé dans l'oreille des sourds de Saint-Monnet, de là, évidemment, leur acharnement, on peut dire, à se défendre dans cette lutte. À l'époque, en octobre dernier, on avait voulu quand même avoir le son de cloche de Nestlé France, et nous avions contacté Monsieur Éric Boulet. Éric Boulet, bonjour. Rappelez-nous les raisons de la fermeture de l'usine de Saint-Monnet.
D'une part, c'est que nous avons une capacité de production qui est largement excédentaire en Europe, et d'autre part, des performances insuffisantes du site de Saint-Monnet, notamment dues au faible taux d'utilisation des équipements par rapport à d'autres usines, dont celle de Dieppe en Normandie. Lorsque nous avons été mis en face de cette excédente capacité, nous avons étudié plusieurs scénarios, et malheureusement, le seul scénario qui soit viable est la fermeture de l'usine. Donc c'est une décision extrêmement grave et très lourde, mais pour les autres usines, c'était malheureusement la seule qui nous restait.
D'accord. Donc, vous avez annoncé ça au personnel au mois de mai dernier.
Oui.
C'est ça. Et donc, il y a 427.
427 personnes, effectivement.
Voilà.
Et dont nous sommes très conscients de l'impact que cela va avoir sur leur vie, sur leur travail, sur leur famille et sur l'environnement. Bien sûr, on ne va pas les laisser en route. Il y a, bien sûr, on va leur offrir à chacun, aux 427, un poste dans une autre usine de Nestlé, soit en France, soit à proximité immédiate, en Espagne, en Suisse ou en Italie. Mais nous savons, et surtout, c'est surtout vrai dans la région de Marseille, les gens n'aiment pas changer de région. Donc nous avons pris l'engagement devant les salariés que nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver à chacun un poste dans la région, dans le bassin d'emploi. Donc cet engagement que nous avons pris publiquement devant eux, que nous avons pris devant les pouvoirs publics, nous allons nous donner les moyens de les tenir.
Alors c'est-à-dire plus précisément quel type d'emploi?
Alors, des emplois qui correspondent à leur qualification, parce que dedans, à Saint-Monnet, il y a des personnels extrêmement qualifiés. Donc, ceux qui sont experts dans le café, dans le chocolat, on va bien sûr leur offrir en priorité un poste dans une usine du même type pour qu'ils aient un poste équivalent. Mmh. Et d'autres, nous allons travailler avec les pouvoirs publics, avec différents organismes pour réindustrialiser le site et créer de nouveaux emplois sur le site.
C'est-à-dire que si on vous écoute, personne ne se retrouvera à la rue.
C'est l'engagement de Nestlé, pour que les personnes de Saint-Monnet puissent saisir avec nous cette opportunité d'évoluer dans leur carrière, de retrouver un nouveau métier qui leur plaît.
Donc, selon vous, personne ne se retrouvera au tapis, quoi.
Nous allons faire en sorte que personne ne se retrouve au tapis.
Eh bien, monsieur Éric Boulet, je vous remercie.
Je vous en prie.
J'ai que 46 ans et je vais trouver du travail où, moi, à mon âge. J'ai 26 ans d'ancienneté et j'ai commencé là-dedans tout jeune, à 20 ans. Maintenant, je vais me retrouver au chômage pour la première fois et je n'invente pas la mode. Il y en a beaucoup qui sont passés par là avant moi, mais voilà, la seule chose qui me reste, c'est de défendre mon emploi, comme tous les camarades, et d'en tirer le meilleur parti, quoi. Je sais pas. Voilà. Après, ils nous proposent des reclassements, mais faut pas rêver. Ils veulent vous envoyer dans d'autres sites d'ici un an ou deux, ils vont passer comme nous. Ça va fermer. C'est tout délocalisé à l'étranger. Alors donc, pour moi, tous ces trucs qu'ils ont dit, là, reclassement, c'est tout du pipeau. J'y crois pas. Voilà. Bon, il y a certains camarades qui veulent suivre le groupe en France. D'autres qui, bon, sûrement, il va avoir un plan social, un plan de pré-retraite. Et bien, le reste,
Charlie,
à la NPE, il va avoir un drôle de ménage dans toute la France entière. Quand ça fait 33 ans qu'on est à Marseille. Je suis arrivé ici gamin, j'avais 14 ans, j'en ai 46, je vois pas ce que je vais faire à Dieppe. Surtout qu'à Dieppe, ils sont en difficulté aussi. Ils vont fermer 4 mois pour moderniser l'usine. Salut. Pour moderniser l'usine, tout ça et tout. Mais même les gens là-bas, ils ont du souci à se faire parce qu'ils disent, est-ce que la production va revenir? Donc eux aussi, ils sont pas certains. Alors vous voyez, c'est vrai maintenant, ça a tout changé, c'est vrai que maintenant, avec ce qui nous arrive, bien sûr, on rentre à l'usine plus difficile qu'avant, quoi. Je rentrais plus avec gaieté de cœur. Avant, on rentrait plus volontiers travailler. Mais maintenant, on rentre... Moi, je vous le dis franchement, personnellement, je rentre par dégoût. Comme si vous allez dans un cimetière, et bien c'est exactement pareil. Voilà, je suis honnête. Pourtant, je crache pas dans la soupe. Nestlé m'a donné à manger pendant 26 ans. Ben, il y a une fin à tout. Ben, c'est malheureux, c'est comme ça. Ben oui, 26 ans de boulot. Le remerciement, ben, ils ferment ici, ils vont ouvrir ailleurs. Ça, c'est le remerciement de Nestlé France. Ben,
c'est pas seulement une émotion passagère qu'exprime Marcel, c'est toute une histoire. C'est notre histoire sociale qui est en cause là, qui est en jeu à travers ces 15-16 mois de bras de fer entre Nestlé et les salariés de l'usine de Marseille, l'usine Saint-Menet à Marseille. C'est la profondeur, les racines même de notre monde social qui est mis en cause. C'est quelque chose de très profond. Et écoutez ce que dit Patrick Candela, qui est délégué syndical CGT, qui a ce poste depuis 1992 et qui donne une perspective historique à la situation présente de ceux de Saint-Menet.
L'usine Nestlé de Marseille est une usine qui date d'abord des années 50. Et c'est vrai que sociologiquement, on ne peut pas considérer que c'était une usine qu'on qualifierait de bastion de la lutte ouvrière ou de... C'est une entreprise de l'agroalimentaire, mais tranquille, quoi. Assez paternaliste, d'ailleurs. Avec des organisations syndicales qui jouaient bien le jeu avec la direction de Nestlé. Ça a duré jusque dans les années 68. Quand Nestlé installe sa usine à Marseille, elle ne s'adressait pas à la NPE, mais chez le curé des paroisses des villages environnants. C'est pour ça que apparaît en premier lieu à Nestlé des salariés qui se retrouvent, je veux dire, même du point de vue des idées et de leur culture, on peut le dire, proches de syndicats comme la CFTC. Ça apparaît jusqu'en 68, où avec l'arrivée de plus en plus importante de salariés de la métallurgie qui sont déjà syndiqués à la CGT, commence à se créer un syndicat CGT, puis 68, évidemment, est une période qui va faire basculer les choses jusque dans les années 80, où là, la CGT prend toute sa place et devient majoritaire.
Avec l'arrivée d'ouvriers plus en plus qualifiés.
Avec l'arrivée d'ouvriers plus qualifiés, de techniciens, qui ne sont pas dans le même schéma de pensée que ces salariés agricoles, que ces anciens paysans qui à la fois travaillaient à Nestlé et à la fois cultivaient leurs champs, mais on se retrouve vers une nouvelle génération qui s'engage beaucoup plus dans le cadre du salariat tel qu'on le connaît en général que vers ces anciens salariés.
Pendant ces années, avant les années 80, cette culture paternaliste, elle se sentait, elle se traduisait par quoi?
Ben, elle se traduit. D'abord, c'est dans la politique de Nestlé. À Nestlé, nous sommes tous des vecteurs de la politique de Nestlé. Nous sommes tous des représentants. Mais c'est écrit, hein. Je veux dire, Peter Brabeck, le PDG de Nestlé à l'échelle internationale, quand il s'adresse à ses salariés, il leur demande à la fois d'être des producteurs, c'est-à-dire des travailleurs, des salariés qui produisent, mais des représentants de l'image Nestlé, des représentants de la politique de Nestlé, des militants de Nestlé. Donc on a tous intérêt à défendre l'image de marque de Nestlé, les produits Nestlé. Une anecdote, si vous travaillez à Nestlé, vous devez boire du Perrier ou du Vittel. Si vous rentrez dans un atelier avec une bouteille d'eau minérale Evian ou d'autres marques qui n'appartiennent pas au groupe Nestlé, vous êtes un traître. C'est évident. Si vous rentrez à Nestlé, vous êtes salarié de Nestlé, vous rentrez avec une tablette Lindt ou Côte d'Or, vous êtes un traître. C'est à ce niveau-là l'état d'esprit Nestlé. Et ça a fonctionné. Pendant une période, c'était, je veux dire, l'esprit paternaliste où le patron, y compris le directeur de l'usine, descendait dans les ateliers, tapait sur l'épaule du salarié. Ça a marché jusque dans les années 80. Mais à un moment donné, il y a un changement. Et Peter Brabeck, le PDG de la multinationale, avoue lui-même qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. L'amitié, ça se paye, quoi, je veux dire. Et Nestlé ne veut plus avoir d'amis dans ses usines. On est en train de rentrer dans une période en France et dans le monde où Nestlé se conduit comme tout patron doit se conduire avec les gens qui l'exploitent. C'est pour ça que, y compris quand on annonce la fermeture de l'usine de Marseille, on est là devant le vrai visage d'une entreprise capitaliste qui traite les problèmes sociaux de cette manière-là, c'est-à-dire en fermant une usine qui d'après eux ne leur apporte pas suffisamment. Alors j'étais un bébé Nestlé puisque mon père était un salarié Nestlé, je suis devenu un exploité Nestlé et aujourd'hui je suis un licencié de chez Nestlé.
Je t'avais prévenu Maurice, c'est vrai il devait pas toucher aux viennois mais il a aucune volonté. Il y a vachement plus de crème fruitée alors évidemment, moi aussi n'a pas pu résister. C'est vrai.
Le viennois de Nestlé, nouvelle recette. Du chocolat délicieusement fondant et 25% de crème fouettée en plus.
Je suis bien gentil avec toi, et là c'est la pension. T'as dépassé les bornes des limites. Non mais oh.
Bah tiens.
Là c'est sûr et certain qu'une journée comme aujourd'hui, bah ça nous donne un petit peu du baume au cœur. C'est sûr et certain, je crois que la comptabilité elle est de plus de 100 000 personnes dans les rues de Marseille. Donc je pense que pour nous c'est important. Donc c'est vrai que ça nous donne beaucoup de choses. Ça veut dire que bon, bah, en plus on est applaudi, tout le monde nous soutient.
Oui, on se relève un peu, mais il y a un désespoir. Mais le désespoir ne veut pas dire abattement. Hein. Le personnel est très touché et tout ce que l'on voit ici nous remonte toujours le moral. C'est le ciment ici, le ciment, c'est le service public et le service privé ensemble dans la rue. Mais on est là aussi pour défendre les 35 heures, les améliorer à notre manière, pas à la manière du gouvernement. On est là pour nos salaires, demander à ce qu'il y ait un Grenelle des salaires pour débloquer cette situation figée. Donc tout ça cimente les salariés autour et nous réchauffe à nous.
On n'en veut pas. 80% de ceux qui ont encaissé des plans sociaux se retrouvent effectivement soit sans boulot, soit à la NPE, RMI, ou alors dans le précaire. C'est dire que l'enjeu est évidemment très très important. On aurait pu écrire un feuilleton hein, tout au cours de ces 16 mois de lutte. C'est quand même ça aurait pu faire une très très bonne sitcom pour la télé, un truc quotidien. On aurait assisté, pourquoi pas une télé-réalité. Ça aurait pu être tout à fait passionnant. Le 1er juillet, en tout cas, on a essayé de se tenir informé de ce qui se passait à Marseille. C'était la fin de la saison de La Basse J'y suis, mais on avait voulu, avant les vacances, savoir où en étaient les salariés de Nestlé.
Qu'est-ce qui se passe depuis ? Je crois que Nestlé a décrété l'arrêt total des productions pour le 30 juin, c'est-à-dire hier. C'est quoi ce bruit derrière vous ?
Mais ce bruit, c'est tout simplement les salariés de l'usine qui ont décidé aujourd'hui, 1er juillet, de continuer à produire et de faire redémarrer les productions. Là, je suis à l'atelier conditionnement chocolat où l'on plie les tablettes. Et voilà, on a donc décidé de poursuivre l'activité du site.
La direction est à vos côtés ?
La direction n'est évidemment pas à nos côtés. Il faut que vos auditeurs sachent que depuis le 24 juin, au matin, la direction a quitté les lieux de l'usine. Donc nous avons décidé d'occuper l'usine. En plus, comme la procédure légale concernant la fermeture du site et les licenciements n'est toujours pas terminée et que le dossier en justice n'est pas clos lui non plus, il n'y avait aucune raison que nous cessions l'activité du site. La direction voulait nous imposer de manière autoritaire de prendre nos congés payés. Nous avons décidé d'assumer notre contrat de travail en continuant à produire aujourd'hui. Nous en sommes là. Nestlé met un veto à tout repreneur et refuse de discuter de notre projet alternatif de poursuite de l'activité. Mais en attendant, c'est un message d'espoir, de lutte et de dignité que nous lançons. Et nous pensons que c'est de cette manière-là qu'il faut réagir face à la dictature de la première multinationale de l'agroalimentaire, comme vous l'avez expliqué. C'est une multinationale qui réalise 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui fonctionne qu'au service de ses actionnaires.
C'est quoi un peu le programme maintenant des prochaines semaines, des prochains mois ?
C'est concrètement déjà dans les premières semaines, interpeller le gouvernement Villepin qui prétend vouloir régler le problème de l'emploi et notamment des créations d'emplois, alors qu'il est en train de faire la démonstration qu'il n'est même pas en capacité d'empêcher 427 licenciements directs et 800 suppressions d'emplois induits. C'est les salariés de l'usine, je me suis mis un peu à l'écart, là. Ce sont les salariés de l'usine qui chantent, qui se félicitent d'avoir fait redémarrer les productions et qui tous ensemble, on va continuer. Pour un nouveau monde, peut-être.
Alors voilà, en juillet, occupation, pas beaucoup de vacances pour ceux de Nestlé à Marseille, à Saint-Menet qui luttent. Et voilà-t-il pas que il y a quelques jours, à la fin du mois d'août, le 25 août, un juge de Marseille, peut-être pas tout à fait de Marseille, d'Aix, je crois, décide eh bien de décréter la réouverture de l'usine, c'est-à-dire que la firme Nestlé est sommée par la justice de rouvrir l'usine de Saint-Menet. C'était tout à fait inattendu. Et donc, La Basse J'y suis est tout de suite descendue à Marseille. François Ruffin rencontre Patrick Candela, délégué CGT de l'usine Nestlé.
Là, on se trouve dans la salle de pause, de l'usine Nestlé à Saint-Menet avec Patrick Candela, délégué CGT. Et on est entre la machine Nescafé et puis l'eau fraîche Nestlé Aquarelle. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit des cheminées qui fument. Il y en a une immense qui fume un petit peu.
Je regarde pour vérifier les informations que tu donnes à tes auditeurs. Elle va reprendre son panache, la cheminée, après plusieurs mois d'arrêt, 2 mois.
Et là, elle a déjà commencé.
Elle a commencé parce qu'on commence à recevoir des matières premières, notamment le secteur dont tu parles, c'est le secteur café. Et on vient de recevoir des matières premières en café vert et on va reprendre la production normale de café.
D'accord. Et comment ça s'est fait le redémarrage de l'entreprise en fait ? C'est suite à quoi ?
Pour moi, c'est d'abord suite à l'occupation du site la dernière semaine de juin, où face à une direction qui a décidé d'arrêter subitement les productions, le personnel a décidé d'occuper le site. Et tout le long du mois de juillet et mois d'août, sous plusieurs formes, l'occupation de l'usine s'est poursuivie. La justice a tranché et a ordonné à Nestlé de faire redémarrer les productions. C'est pour ça que depuis une semaine, sous la contrainte, Nestlé a appelé le personnel à reprendre son poste pour préparer le redémarrage du site. Et bon, certaines lignes ont redémarré aujourd'hui, mais dès lundi, normalement, les installations de production devraient être en situation de produire.
On fait une petite balade à l'intérieur de l'usine pour voir ce qui tourne et ce qui ne tourne pas.
Ok. Pas plus, hein.
Nestlé, c'est fort en chocolat.
Ça, c'est le secteur chocolat.
Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas grand-chose qui tourne ici.
Ben là, à l'heure actuelle, ça ne tourne pas parce que nous attendons que toute l'installation soit en situation de pouvoir fabriquer.
Donc là, on monte à l'étage.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Tu arrives ?
J'arrive.
On peut te voir ?
Oui.
Deux secondes.
Oui.
Les trois ouvriers présents ici, on est tous de père en fils. Il y a mon grand-père qui a travaillé ici, mon père et moi, enfin, trois générations. Je pense que M. Candela, c'est pareil. Là, on nous coupe vraiment l'herbe sous le pied. C'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Pour pas dire d'autres mots.
Et là, le fait que l'usine reprenne, pour de bon, on entend les machines derrière, même s'il n'y a pas encore de chocolat qui sort des lignes de production, c'est l'espoir qui renaît, c'est quoi ?
Moi, j'ai quand même un petit espoir que ça reprenne et que petit à petit, Nestlé revienne sur sa décision, quoi.
Mais Nestlé veut le divorce, pourtant.
Du moment qu'il parle, vous parlez d'un divorce, s'il veut le divorcer, il faut qu'il divorce à l'amiable. Il ne faut pas qu'ils divorcent comme ils entendent eux.
Parce que là, le divorce que propose Nestlé, M. Candela, c'est un peu un divorce où Nestlé garde la maison, Nestlé garde la voiture, Nestlé garde la garde des enfants, et vous interdit en plus de vous remarier derrière.
Le mot divorce revient souvent, parce que comme on a un personnel où Nestlé, pendant des décennies, a su intégrer, y compris à faire croire qu'on était de la même famille, qu'on était quasiment mariés avec eux, c'est pour ça que ce terme revient, hein. Par exemple, le fait qu'ils s'opposent à un repreneur, non seulement ils veulent divorcer, mais ils ne veulent pas qu'on se remarie avec quelqu'un d'autre. C'est assez intégriste comme démarche, hein. C'est assez intégriste. C'est on ne veut plus de vous, mais vous ne devez plus vivre sans nous. C'est criminel. Et là, nous rentrons dans le bâtiment où nous produisons le café et le riz couré.
Donc au mur, on a une très grande affiche avec un nounours qui tient une tronçonneuse. En dessous, c'est marqué Nescafé, Nes, ne vous fiez pas à sa douceur.
On remarquera ces derniers temps que les publicités Nestlé sont très agressives en direction du consommateur. C'est une publicité Nestlé, ça. Hein.
Ça, c'est une vraie publicité Nestlé.
Absolument, oui.
Donc c'est une vraie publicité Nestlé, mais qui, si, prend un sens qui est complètement autre.
Ouais, ça prend le sens de... C'est peut-être le vrai visage de Nestlé, je ne sais pas, c'est une question.
Alors, ça y est, ça sort.
Bonjour, chef.
Salut.
Bravo.
Merci.
Félicitations.
Bonjour. Voilà, Stein, j'ai fait un bruit à une heure. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, regarde, tiens, la ricoré qui
coule. Que le café.
Voilà la ricoré qui sort.
Voilà, je viens de démarrer les installations à 13h et j'ai la ricorée qui sort de la tour de pulvérisation.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Non, je suis en train de faire le calendrier, justement, parce qu'on devait s'arrêter le 30 juin. Ben, on ne s'arrête pas le 30 juin, on va continuer. Donc on prolonge notre horaire jusqu'à fin décembre, voire peut-être 2006, 2007.
C'était presque inespéré, la reprise d'aujourd'hui ?
On a beaucoup bataillé et bon, mais nous on est content d'être là, quoi. Nous on s'est battu pour ça, pour continuer. Donc nous on peut pas être plus heureux, quoi.
En espérant que ça dure, quoi.
Voilà, ouais, ça c'est le. Après, c'est en espérant que ça dure, c'est ce qu'on souhaite le plus, quoi.
Il y a quoi comme boîtes qui ont fermé ces derniers temps dans la région ?
Ben, il y a les chantiers navals de la Ciotat, il y a la mine de Gardanne. Il y a plus près de nous la fermeture de il y a eu Saint-Marcel Ferroviaire qui était une entreprise qui travaillait en collaboration avec la SNCF. Il y a Rivoire et Carré pas loin d'ici, à Vallée-Bluvonne. Il y avait une société aussi qui produisait, qui fabriquait des produits phytosanitaires, la société Agrévo Procida. Intramuros à Marseille, dans Marseille même, nous sommes la dernière grande, le dernier grand site industriel intégré à la ville de Marseille. Il n'y a pratiquement plus d'industrie à Marseille, et même dans la région, je vous dis, une hécatombe. Marseille est en train de et sa région est en train d'être vouée exclusivement au tourisme et au tourisme d'affaires.
Et qu'est-ce qu'ils font vos enfants? Votre fille
pour OD, elle travaille pour Hardiscount, hein, donc bon, ben, c'est pas mirobolant là au niveau des salaires. Ben, de temps en temps, ben, à la fin du mois, ben, on va la faire des courses pour qu'ils puissent finir la fin du mois, c'est tout. Hein.
Parce que là, tout à l'heure, on était dans côté chocolat, et les trois personnes qui étaient présentes, c'était des personnes dont les parents, voire les grands-parents, avaient travaillé sur le site de Nestlé.
Ah ben moi, je peux pas faire mieux, je suis carrément né dans l'usine. Mon père et ma mère, ils sont rentrés en 56. Je suis né en 59, j'ai mangé Nestlé, je suis allé en colonie à Hendaye, Pontarlier, Langrune, j'ai fait le camp avec Nestlé. Je suis parti faire l'armée à Val-d'Aon, qui est pas trop loin de Pontarlier, donc je suis revenu à l'âge adulte sur un lieu de Nestlé, donc même à l'armée. Et puis je suis sorti de l'armée, ça fait 26 ans que je suis chez Nestlé, voilà.
Alors évidemment, ceux de Nestlé se trouvent face à des choix et à des enjeux très compliqués. Par exemple, la direction de Nestlé leur dit non, ne laissez tomber votre plan alternatif, n'espérez pas et ne recherchez pas un repreneur qui, dans très peu de temps, dans un an, vous foutra vraiment dehors définitivement, avec dans des conditions bien plus dures que ce que nous vous proposons, que le plan social que nous vous proposons. Alors pour être un peu plus précis, voilà ce que gagne quelqu'un qui est chez Nestlé depuis 25 ans. 25 ans de boîte, eh bien, avec les primes, c'est 9500 francs. Moi, je parle en francs. Pour quelqu'un qui fait les 3-8, 25 ans. Alors, en cas de licenciement, la prime de licenciement s'élèverait à 200 000 francs, dans le cas d'un salarié qui est là depuis 25 ans, et assorti de 6 mois de congé de reclassement avec 75% du salaire. Voilà, ça donne une idée. Quelqu'un qui est là depuis 5 ans aurait environ une prime de licenciement de 50 000 francs. Il faut le savoir, il faut le dire, parce que ben ça peut intéresser un certain nombre des salariés de Nestlé. D'ailleurs, il y a un certain nombre qui acceptent ces conditions. Ils ne sont pas la majorité continue le combat. Alors, on va finir, parce que provisoirement, c'est un épisode, bien évidemment, hein, c'est un feuilleton qui n'en finit pas. On espère évidemment que ça finira comme nous le souhaitons, vous avez bien compris ce que nous souhaitons. On va quand même laisser la parole, pour finir, à la direction de cette usine Nestlé à Saint-Menay.
Alors là, on se trouve dans les bureaux de la direction de l'usine de Saint-Menay, Nestlé à Saint-Menay. On se trouve avec Monsieur Mazuc, qui est le directeur de l'usine. On a l'impression, là, chez Nestlé, qu'il y a un peu une politique de la terre brûlée, en ce sens qu'il y a une usine où il y a des ouvriers qui sont prêts à travailler. Et bon, non seulement Nestlé dit « on veut plus de cette usine », mais on vous interdit d'être pris par quelqu'un d'autre. Et si on vous interdit d'être pris par quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est une usine qui est rentable, qui est productive, qui est performante. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Nestlé a toujours dit qu'il n'était pas prêt à céder l'usine à un entrepreneur qui pourrait produire des produits proches qui viendraient concurrencer nos produits. Parce que à terme, non seulement ça mettrait en danger le résultat de l'entreprise, mais ça pourrait mettre aussi en danger les autres usines du groupe.
Parce que, de toute façon, vous dites il faut alors proposer un projet de réindustrialisation, mais qu'il ne soit pas ces produits-là. Dans cette usine, on ne peut pas produire des pièces d'avion, quand même.
Alors l'usine, de toute façon, s'il y a un repreneur, devra être restructurée. Elle est faite précisément, elle a été construite autour de la fabrication de tablettes de chocolat et de café. En revanche, il est possible de faire de ces bâtiments des bâtiments pouvant accepter des artisans, du commerce et des choses qui ne sont pas directement liées à notre production actuelle.
Donc vous interdisez, Nestlé interdit toute reprise avec une fabrication qui serait des produits alimentaires, qui serait des produits proches de ce que produit déjà Nestlé ailleurs. Sachant que Nestlé, en monde alimentaire, produit à peu près tout.
Non, Nestlé ne produit pas tout. En revanche, effectivement, la position est une position de non-concurrence par rapport à un industriel qui viendrait détruire le résultat de l'entreprise.
Donc on détruit le résultat. Enfin, on veut pas détruire le résultat de l'entreprise, mais en revanche, on détruit quand même de l'emploi et on détruit. Et pendant ce temps-là, le groupe Nestlé se porte pas particulièrement mal.
Alors il y a bien sûr ce genre de situation n'est jamais très agréable. Fermer une usine n'est pas chose simple. En revanche, il y a des propositions précises, des mesures sociales d'accompagnement, soit au reclassement dans les usines du groupe, soit pour un reclassement dans le bassin d'emploi de la région marseillaise.
Et vous-même, vous savez ce que vous deviendrez en cas de fermeture de l'usine ?
Ce n'est pas vraiment le sujet du débat. J'aurai, comme chacun des 427 salariés, une proposition de reclassement et je l'étudierai à ce moment-là.
Il y a une publicité que j'ai aperçue sur les murs de l'usine où on voit un nounours avec une tronçonneuse entre les mains et c'est marqué Nescafé, Nes, ne fait pas dans la douceur. On a le sentiment que c'est un peu vrai aujourd'hui en matière d'emploi chez Nestlé.
Et pourtant, les mesures d'accompagnement, ce qui concerne l'accompagnement social pour le reclassement, sont importantes. Et donc, il n'y a aucune raison pour estimer que Nestlé se comporte comme quelqu'un, comme une entreprise brutale.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, la chercher, il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver, je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier, j'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise Marcia, monte ses escondidas. Enfin, mise Marcia, Versailles, c'est perdida.
Voilà, merci à tous. C'était Nestlé un an après. Évidemment, c'est à suivre et on va suivre avec Olivier Gesbert et François Ruffin. Merci à Patrick Candela, Joël Budanic, Yves Durand et à Marcel et à tous les ouvriers de l'usine Nestlé de Saint-Menet. Vous pouvez retrouver les salariés de Nestlé du 9 au 11 septembre à la Fête de l'Humanité, au stand de la Fédération des Bouches-du-Rhône, et toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutarde, assistante Pascal Pascariello. C'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Dans un instant, vous retrouvez Bruno Duvic pour les infos. Et ensuite, ce sera Charivari. Il est 17h58 et 30 secondes sur France Inter.
vendredi. Euromillions met en jeu la somme colossale de près de 66 millions d'euros. 66 millions! Bah, j'ai dû engager du personnel pour les compter. Ah, d'ailleurs, voilà l'équipe de nuit.
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Euromillions! Devenez plus riche que riche.
Euromillions est un jeu de la Française des Jeux.
Le climat se dérègle. Nous devons tous agir et tout de suite. On ne peut plus se contenter de...
Moi, j'aimerais bien agir en m'équipant d'une chaudière performante. Surtout qu'en 2005, avec le crédit d'impôt, l'État nous rembourse une partie de l'achat d'équipement. Mais si je suis pas imposable, comment ça se passe?
C'est très simple. Vous recevez un chèque de l'État. Aujourd'hui, c'est encore plus facile d'économiser l'énergie.
Faisons vite, ça chauffe.
Contactez l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, et les conseillers Info Énergie au 0810 060 050. Prix d'un appel local.
Philippe Mérieux écrit une lettre à un jeune professeur. Auteur de nombreux livres de pédagogie, Philippe Mérieux travaille à la formation des enseignants. Dans son livre, il expose les difficultés de tous bords que rencontrent les professeurs au cœur de leur métier, mais rappelle à chacun que l'enseignement est là pour faire vivre à d'autres la joie de ses propres découvertes. Lettre à un jeune professeur, un livre sincère où Philippe Mérieux parle franc, parce qu'avec la passion de transmettre, enseigner reste le plus beau métier du monde. Lettre à un jeune professeur de Philippe Mérieux, une coédition France Inter.
À demain 17h pour la base, si j'y suis, le journal. Bruno Duvic, salut.
Bonsoir. L'équipe de France de foot peut-elle à nouveau réaliser de grandes choses? Réponse ce soir, Irlande-France à Lansdowne Road, match très important sur la route du Mondial 2006. Nous retrouverons Cédric Guillou en direct de Dublin à la fin de ce journal. C'est toujours l'incertitude sur la participation de Lilian Thuram. Le nombre de morts sur les routes en très nette baisse au mois d'août, moins 12,5%, chiffre encourageant selon le ministre des Transports après le mauvais bilan du mois de juillet. Comment économiser l'essence? Essayez le covoiturage. De plus en plus de personnes adoptent cette solution. Reportage à Toulouse. Enfin, une bonne nouvelle dans une région qui connaît la crise. L'usine Toyota de Valenciennes embauche 1000 personnes. Et la bataille pour l'emploi, après la version Villepin, la copie de Nicolas Sarkozy. Le président de l'UMP présentait cet après-midi toute une série de mesures et il en est convaincu, en 10 ans, on peut ramener le taux de chômage à moins de 5%. Les leçons du passé ont été tirées grâce aux nombreuses mesures de précaution. Les pluies d'hier et cette nuit n'ont pas fait de victimes dans l'Hérault et le Gard. Météo France maintient une alerte orange dans ces deux départements et dans l'Aude. Votre soirée sur France Inter, nostalgie et plaisir, information et forum de discussion. 18h18, Charivari, il sera question de deux personnes qui ont marqué la chanson française, Étienne Rodagil et Joe Dassin. Après le journal de 19h, le téléphone sonne, la catastrophe du cyclone Katrina, du cauchemar sanitaire à la défaillance politique. Question réflexion 01 45 24 7000 et franceinter.com.
France Inter.
C'était la mauvaise nouvelle du mois de juillet. Le bilan du mois d'août est nettement meilleur. Bilan de la sécurité routière. Le nombre de morts est en baisse de 12,5% par rapport à août 2004. 400